Voilà. Tov, alors c'est parti. Erev Tov, les Koulam. Erev Tov, les Koulam. On met bien ça pour pas que ça tombe. Yofi. Erev Tov, les Koulam. Alors je suis très heureux ce soir de parler d'une personnalité incroyable. Alors, on a l'habitude, voilà, depuis déjà quelques mois, de parler chaque lundi soir d'un personnage extraordinaire. Mais là, ce soir, on va parler d'abord de quelqu'un qui est véritablement inconnu au bataillon. Et ça, c'est toujours très intéressant de parler de Rabbanim que personne ne connaît. Quand on parle du Rav Mordechai Eliyahu, tout le monde connaît, même s'il y a toujours des choses à redire. Mais quand on parle du Rav Tzvi Yehuda, c'est beaucoup plus connu. Mais déjà la semaine dernière, je ne sais pas combien de gens connaissaient le Rav Zev Yahavetz. Mais là, pour le coup, je me dis qu'à mon avis, il y a peu de gens qui ont entendu parler du Rav Yishayahu Shapira. Et donc, eh bien, je ne vais pas tout de suite rentrer dans son histoire, mais pour que vous compreniez son histoire, eh bien, je veux vous expliquer d'où il vient. D'où il vient, parce que ça va être très important de comprendre le switch énorme qu'il va faire. C'est un révolutionnaire. C'est un révolutionnaire. Je l'ai appelé le cours le Rabbi Cowboy. Oui, c'est un cowboy. Oui, on a des photos de lui à cheval, en t-shirt et à cheval, avec un chapeau, bien sûr. C'est vraiment un cowboy du Far West en Eretz Israël. Mais quand on sait dans quelle ambiance il a grandi, eh bien, ça replace les choses dans un contexte énorme. Il va naître en 1890. Et tu sais, tu connais la blague que lorsque il y a monsieur et madame Cohen qui t'invitent à la Brit Mila de leur fils, alors ils sont très heureux de t'inviter à la Brit Mila de leur fils, le docteur David Cohen. Il y a des gens comme ça, que quand tu nais, tu sais que tu vas reprendre l'affaire familiale ou tu sais déjà quelle va être ta destinée. Eh bien lui, quand il naît à Grodzik, en Pologne, en 1891, eh bien, je peux t'assurer qu'à sa Brit Mila, on a dit Veikare Shemo Beisrael Admour Rabbi Yishayahu Shapira. Pourquoi Admour? Eh bien, parce qu'il est le fils d'Admour, le petit-fils d'Admour. Il vient d'une dynastie chassidique de tout premier plan. Il a été nommé Yishayahu au nom du Rav Yishayahu Alevi Horowitz, le Shla Kadosh. Il est directement lié en droite ligne du José de Lublin, un des grands, grands maîtres de la Chassidoute, l'élève de Rabbi Elimelech de Lijansk. Autant vous dire que la Chassidoute de Grodzik, eh bien, c'est... Oula. Autant vous dire que c'est une famille chassidique très puissante et, eh bien, le petit Yishayahu est tout de suite prédestiné pour être le futur rabbi. Alors, il va y avoir quelques petits problèmes au niveau familial parce que son père meurt alors qu'il n'a que un an. Il est donc recueilli par son grand-père. Son grand-père, c'est aussi un Admour chassidique. Il est le rabbi de Chęcin. On est dans la même région du nord-est de la Pologne. Et voilà. Son avenir est tout tracé. Il a un frère. Il a un frère, mais pour l'instant, c'est lui qui est censé être l'aîné, c'est lui qui est censé être le futur patron. Il grandit évidemment dans le monde de la yeshiva, Talmud et Torah, tout ce que tu veux. C'est un Talmud Chacham Gadol, mais à 23 ans, il décide de tout plaquer. Révolution en Pologne, révolution à Varsovie, parce que la famille est partie transité par Varsovie, à 23 ans, il renonce à être Admour. Son petit frère va devenir l'Admour de Pierre Setna. Le rabbi de Pierre Setna, dans le monde de la Chassidoute, c'est extrêmement connu. Dans le monde de la Pologne, quand je vais guider en Pologne, combien je leur raconte d'histoires sur le rabbi de Pierre Setna ? Le rabbi de Pierre Setna, c'est quelqu'un que, dans le monde de la Torah, de la Yeshiva, on connaît très bien. Il a écrit le livre Chovat HaTalmidim, un livre de Moussar sur les élèves de Yeshiva. Mais Le rabbi de Bersetna, il est surtout connu pour le livre qui va paraître après sa mort, puisque alors qu'il est enfermé dans le ghetto de Varsovie, eh bien, il va continuer à donner ses divrei Torah et ses drachot de Shabbat. Et tous ces ouvrages vont être compilés, parce que vont être confiés à l'organisme clandestin qui s'appelle Onek Shabbat, qui écrit tout ce qui se passe dans le ghetto. Et parmi les archives de Onek Shabbat, eh bien, les écrits du Admour de Persetna vont résister. Et dans la lettre qu'il marque avec ses écrits, il dit « Si mes écrits survivent, eh bien, faites-les parvenir à mon frère en Eretz Israël. » Et effectivement, les écrits vont arriver à notre Rav Ishayahu Shapira, qui va en sortir le livre Esh Kodesh. Donc, si vous voulez, le rabbi de Persetna, c'est très connu. Il renonce à tout cela pour, eh bien, tenter le rêve israélien. Il y en a qui veulent tenter le rêve américain, mais lui, il veut tenter le rêve israélien. À 26 ans, en 1917, il fait partie de ceux qui vont créer en Pologne le Mizrahi. Il se découvre une conscience sioniste énorme. Rappelez-vous dans quel contexte on est. On est dans le contexte d'un rabbi chassidique qui est fils de rabbi chassidique, petit-fils de rabbi chassidique de dynastie très connue. Et pour faire simple, 99% des chassidim de Pologne sont opposés au sionisme. Sont opposés au sionisme politique de, alors, de Herzl, évidemment. C'est-à-dire que quand il dit, moi, non seulement je refuse d'être Admour, mais en plus, je m'attache au mouvement sioniste et je vais créer, je vais être parmi les créateurs du Mizrahi, c'est-à-dire la branche religieuse du Congrès sioniste mondial, de l'organisation sioniste mondiale, et ça fait l'effet d'une bombe. En 1920, il a à peine 29 ans, il monte en Israël. Alors la vérité, c'est que je ne l'ai pas dit, mais il est déjà monté en Israël à 23 ans. À 23 ans, c'est-à-dire en 1914, il monte en Eretz Israël, au moment où il a abandonné l'idée d'être Admour. Mais il ne peut pas y rester. Pourquoi il ne peut pas y rester? Parce qu'en 1914, la Première Guerre mondiale éclate, la terre d'Israël est encore sous domination ottomane. Lui, comme il est un sujet de l'Empire russe, et les Russes, eh bien, sont ennemis avec l'Empire ottoman, donc tous les netinim russes, tous les sujets russes sont expulsés de la Palestine. En d'autres termes, il est monté pour quelques mois et il est obligé de repartir. Et donc, il repart, et c'est là que je vous ai dit, donc il va créer le Mizrahi, et finalement, en 1920, il revient en Eretz Israël. Bon, mais attendez, deux secondes. Il fait quoi en Eretz Israël? Ah, il fait quoi en Israël? Ben, à ton avis, c'est un rabbin, non? C'est un rabbin, fils de rabbin, petit-fils de rabbin. Qu'est-ce qu'il va faire en Israël? Ben, d'abord, de la politique. Il devient le responsable de Mahlakat Aliya Veaklita de la branche du Mizrahi. Il est en fait un véritable homme politique dès son arrivée en Israël. Beaucoup plus tard, et on y reviendra, il va créer l'organisation Apoel HaMizrahi. On va voir ce que c'est, pourquoi il y a une nouvelle organisation qui s'est mise en place, on y reviendra. En 1929, il a 38 ans, et on va voir aussi dans quel cas ça arrive, eh bien, il rentre dans la Haganah, et il va très vite en devenir un des commandants. On parle d'un rabbin, la barbe jusque-là, hein, un des commandants de Tzahal en devenir. En 1933, qu'est-ce que vous donneriez comme travail à un rabbin? C'est pas compliqué, il devient directeur de banque. Il est le directeur de la banque Zerubbabel, qui est en train de mettre en place les bases de la Banque d'Israël. Pendant 10 ans, il va être directeur de la banque. Mais bon, finalement, il dit, c'est pas pour moi tout ça. J'ai fait mon boulot, je l'ai bien fait, mais finalement, c'est pas mon truc. en fait 9 ans pour être exact, en 1942, eh bien, il décide que c'est terminé la banque, c'est terminé la politique, il va réaliser son rêve, il devient agriculteur à Kfar Pines. Et il va devenir le Admour à Khalouts. C'est contre sa volonté, il n'a rien fait pour ça. Mais à Kfar Pines, il devient Admour, parce que les gens viennent chez lui tout le temps et l'appellent comme ça, et il devient le Admour à Khalouts, le Rabbi pionnier. Ce n'est qu'en apprenant la mort de son frère après la guerre qu'il va tomber dans une profonde dépression, il va tomber malade et il va en mourir en 1945. Il est alors très jeune. En 1945, il décède, il sera enterré au Mont des Oliviers. Alors, là, on a fait très très rapidement le pédigré du monsieur. Mais il va être maintenant temps de rentrer dans le personnage. Qui est Rabbi Yishayahu Shapira? Quelle est la grandeur de ce révolutionnaire méconnu, le Rabbi Cowboy? On dira de lui « Uyatsak et achassidut betor achalutziyut ». Il a mis la chassidut dans l'idéal des pionniers. Alors venons, on va essayer de comprendre de quoi on parle. Il est partout. Il est partout, dans tous les tzmatim, dans toutes les, comment dire, les carrefours du jeune État d'Israël en devenir, il est là. Et il va toucher à pratiquement tous les domaines qui vont mettre en place l'État d'Israël. Alors de quoi on parle? Tout d'abord, en 1924, lorsqu'il est déjà donc revenu en Israël, il a déjà, j'ai dit, en Pologne, été un activiste politique, puisqu'il met en place, avec d'autres, le Mizrahi, il va suivre le Rav Reines. Mais à ce moment-là, en 1924, il se passe quelque chose. Un déclic dans sa vie. Il voit deux rabbanim, deux admourim chassidim, qui sont venus en Israël avant lui et qui sont en train de construire une ville chacun de leur côté. Pour lui, c'est un chidouche énorme que les rabbins s'occupent de construire la terre d'Israël. Il n'avait jamais vu ça et il n'avait jamais entendu ça. Ces rabbinim en question s'appellent le Admour de Yablona et le Admour de Koshnitz. L'Admour de Yablona va créer en 1924 le village de Nachalat Yaakov dans la Emek Israël. Alors que l'Admour de Koshnitz va créer le village de Avodat Israël à côté du fleuve Kishon, pas très loin de Haïfa. Maintenant, vous n'avez certainement jamais entendu parler de ces deux villages. Pour la simple raison qu'ils n'ont pas résisté très longtemps. Ça marchait pas bien. Ils étaient trop peu nombreux pour réussir chacun de leur côté à mettre en place leur idéal de créer un village juif avec tout l'idéal de la Khalutziyut, mais en étant également les héritiers de la tradition chassidique qu'ils avaient reçu en Pologne. Comme ils n'arrivent pas séparément, eh bien c'est à ce moment-là que va rentrer en jeu notre Admour à Khalouts, notre Rav Yishayahu Shapira. Mais on est à peine en 1926, Rabotai. Et en 1926, il n'est pas jeune, il n'est pas vieux du tout, il a 35 ans. Et moi, c'est ça qui me choque. Quand je prépare ces cours-là, du lundi soir, et que je vous les transmets, je suis toujours choqué de voir, au moment où ils ont, ces gens-là dont je parle, mon âge, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et je suis toujours abasourdi de voir à quel point moi, j'ai rien fait, et eux, à mon âge, ils sont partout. Eh bien, le Rav Yishayahu Shapira, il a 35 ans, et c'est lui qui vient voir le Rabbi de Yablona et le Rabbi de Koshnitz. Et il leur dit, tout seul, vous n'y arriverez pas. Unissez-vous, mettez-vous ensemble, et moi, je vais vous trouver un terrain, et moi, je vais vous permettre de construire ensemble une vraie communauté. Allez, De toute façon, vous avez les mêmes idéaux. Alors toi, tu resteras le rabbi d'Yablona, toi, tu resteras le rabbi de Kodnitz, à Koltov. Et ils vont créer tous les trois un village que, oui, vous connaissez. Alors que Nachalat Yaakov, connaissez pas, que Avodat Israël, connaissez pas, vous connaissez le village de Kfar Hasidim. Eh bien, Kfar Hasidim, c'est le rabbi Achalutz, c'est le rabbi Koboy, c'est le rabbi Shayahu Shapira. Il écrit énormément. Il écrit énormément et ce soir, je vais vous citer pas mal de ses écrits sur tous les sujets qu'on va traiter. Il a une vision tellement, tellement juste de la situation. Par rapport, lorsqu'il crée, il aide à créer Kfar Hasidim, il commence à se dire que la Aliyah, la Haaretz, pourra un jour se transformer en Aliyah la Regel, en Aliyah vers le Beth Amikdash, vers Jérusalem. Et il écrit la chose suivante, et je vous cite, c'est avec énormément de douleur que nous nous rappelons de ces journées et de ces fêtes extraordinaires que nous avions à l'époque. À cette époque, tout le peuple juif, de Dan jusqu'à Beersheba, montait trois fois par an pour aller voir et se faire voir dans la maison de Dieu. Il y avait une grande valeur, et là je me permets de m'arrêter de lire et de vous demander, quelle est la valeur à votre avis de Aliyah la Regel? Si on vous posait la question, c'est quoi pour vous l'importance de Aliyah la Regel au Beth Amikdash? Eh bien, en tant que bon religieux, on dira, ben, c'est d'aller voir Dieu, d'aller rencontrer Dieu. Le rabbi Achalutz, toute sa philosophie, c'est « oui, mais ce n'est pas ça l'important ». Il nous dit « l'important de Aliyah la Regel à l'époque, « gadol haya erko shel hakinus shel am Israël le chizuk ha'ardut ha'israelit ». L'importance dans Aliyah la Regel à l'époque du Beth Amikdash, c'était de permettre la réunification du peuple juif. Le fait que les gens se sentaient ensemble et forts ensemble. Il y avait une dimension de rapprochement avec Dieu. Mais le plus important, c'était que Am Israël enfin pouvait se réunir. Nous dit le Rav Ishayahu Shapira, nous espérons qu'aujourd'hui, avec la résurrection de la vie juive en terre d'Israël, eh bien, bientôt, pourront se réunir ici tous les juifs. Maintenant, ça, c'est une belle phrase de rabbin. Nachon. Seulement, il rajoute des mots derrière, qui pour nous semblent évidents, mais que, au début des années 20, ça n'est pas du tout en Eretz Israël. Il dit qu'on puisse y voir très vite le retour de tous les juifs. Les Ashkenazim, les Sfaradim, les Yéménites, Vekol Keilot Israël Ashonot. C'est-à-dire que pour lui, il veut un véritable retour de tout le monde. Et c'est à cela qu'on aspire depuis la destruction du Temple. En d'autres termes, pour le Rabbi Shaul Sapira, eh bien, le boulot maintenant, c'est la réunification du peuple juif. En fait, ça va être ça qui va accompagner sa vision durant toute sa vie. Alors, il est le fils d'Admour, le petit-fils d'Admour, on a dit. Mais lorsqu'il arrive en Israël, qui devient son maître? Eh bien, évidemment. Évidemment, qui devient son maître? Ben, tu le sais. Son maître, lorsqu'il arrive à Yafo, qui vient l'accueillir? Il arrive en 1920, comme on a dit, à Yafo. Il est accueilli au port par le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook. Il devient Talmid, Chaver, Oev, tout ce que tu veux du Rav Kook. Il l'accepte tout de suite comme étant son maître, son Chaver, son tout ce que tu veux. Il est fan de lui. Et d'ailleurs, il va écrire un livre. Il va écrire un livre qui s'appelle Eretz Chefetz. Eretz Chefetz, du Admon Achalutz, c'est un recueil de toutes les... on va dire toutes les paroles du Rav Kook pour Eretz Israël, en faveur d'Eretz Israël, en faveur de la Aliyah la Haaretz, commentées par le Rav Yishayahu Shapira. Eretz Refet. Rabotai, on a dit que c'était un rabbin cow-boy. Mais quand moi je dis cow-boy, je pense Lucky Luke. Et quand je dis Lucky Luke, je pense un mec sur un cheval qui sillonne le pays. Eh bien, c'est exactement ce que va faire Admour Achalout. Il commence une série de tioulim, une série de siourim be'eretz Israël pour partir à la rencontre et à la découverte de la terre d'Israël qu'il aime tant. Grâce au Rav Yishayahu Shapira, il écrit un livre qui s'appelle Lo alenu, alenu amelacha ligmor. Il dit, c'est à nous de terminer le travail. Et dans son livre, eh bien, il va d'abord, dans une première partie, raconter ses voyages en terre d'Israël. Et il va passer partout. Mais à chaque fois qu'il arrive à un endroit, il arrive à mettre l'accent sur l'importance de l'endroit. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre dans la résurrection nationale ? Il commence à partir à Sébastia, Bachomron. Et là-bas, oy va voy, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il arrive à Sébastia. Il y a ceux qui ont déjà été à Sébastia, vous savez, il y a un très très beau tatspit sur le Chomron, sur toute la Samarie. Il dit, lorsque nous voyons le panorama extraordinaire, eh bien, nous pouvons voir les versets du Tanakh prendre vie sous nos yeux. Ils deviennent alors limpides. Comme il est marqué dans le livre de Yishayahu. Hoy ataret geout shikore Ephraim vetzitz novel tzvi tifarto asher al rosh gai shemanim hallume yain. Il dit, ben voilà, je suis là. Je suis devant cette vallée pleine de vignobles. Je suis devant cette vallée qui est mamash le tiferet. Les versets du Tanakh sont pour moi maintenant quelque chose qui ne sont plus seulement du domaine de l'étude, mais sont tout simplement la vie. Il dit, Advarim einam zkukim kan le perush. On n'a pas besoin d'expliquer les choses. Ils sont écrits dans la metziut, dans la réalité. Pour lui, le Shomron, c'est la résurrection du Tanakh. Vous allez me dire comment ? Il parle de la résurrection du Tanakh d'Afka Bashomron. Pourquoi il ne parle pas de Jérusalem, tout ça ? Eh bien parce qu'on ne s'en rappelle pas. Mais la majorité dans notre vie en Israël, je ne parle pas de la Torah et je ne parle pas du livre de Yoshua. Mais quand tu regardes Sefer Shoftim, Sefer Melachim, Sefer Shmuel, ben, les histoires se passent de manière majoritaire dans la Samarie. Beaucoup plus qu'en Judée. Ce n'est qu'après la chute du royaume d'Israël que les histoires vont se concentrer sur la Judée. Mais avant cela, la majorité des textes nous parlent du Shomron, nous parlent de ce qui se passe dans la Samarie. Donc pour lui, on est en train tout simplement, eh bien, de faire revivre tout simplement le Tanakh. Alors, il ne s'agit pas simplement d'une offre, c'est-à-dire du panorama, de l'endroit. Le Rav Shapira nous dit, il y a une dimension qu'on a complètement occultée Bagalout et qui pourtant dans la Torah a une place prépondérante. Il dit Bagalout, lo yadanu botanika ma'i. Il dit dans l'exil, on ne savait pas ce que c'était que la botanique. La botanique, les fleurs. T'as déjà vu un rabbin qui parle des fleurs ? Il dit aval po, lorsqu'il arrive à Har HaTzofim, lorsqu'il arrive à Jérusalem, il voit les fleurs qui sont tout autour de Jérusalem. Et il dit, mais maintenant, on peut tout à fait comprendre, eh bien, comment est-ce qu'on pouvait préparer la Ktoret ? Comment est-ce qu'on pouvait préparer les encens au Beth Amikdash ? Je vois la botanique qui entoure Eretz Israël. Je comprends les choses. Encore une fois, redonner vie au judaïsme. Mais pour lui, redonner vie, ce n'est pas seulement dans le texte. Il faut également que ça s'accompagne, comment vous dire, eh bien, d'une construction au quotidien, d'une construction au présent. Ça ne peut pas être que un regard tourné vers le passé. Il continue ses voyages et il arrive à Naharaïm. Tzomet Naharaïm, dans le nord d'Israël, sur le côté est de la rive du Jourdain. Aujourd'hui, c'est en Jordanie. Mais à l'époque, on pouvait encore se balader là-bas. Tout était sous la domination du mandat britannique. Il arrive là-bas à Naharaïm et là, il écrit quelque chose d'extraordinaire. Il dit « J'ai vu aujourd'hui comment le fleuve du Yarden du Jourdain part de l'est et arrive à l'ouest. Et je me suis rappelé l'enfance de notre peuple. Je me suis rappelé ici de la guerre contre Og Melech Abashan qui s'est passée ici. Je me suis rappelé également, eh bien, les Plagot Réhouven, lorsque la tribu de Réhouven a décidé de s'installer ici. Je me suis rappelé de Yaakov Avinu, qui arrive par ici de chez Lavan. Mais j'ai été émerveillé de voir qu'ici se reconstruisait un village juif, se reconstruisait également ce qui va devenir la grande station d'énergie de Naharaïm, le grand moulin et le grand barrage de Naharaïm qui va être construit, qui malheureusement aujourd'hui n'est pas en notre possession. Il dit voilà, Khan, nous dit le Rav Shaul Shapira, sera la base de l'énergie nouvelle d'Israël. Il ne s'agit pas seulement de regarder le passé, mais il faut également construire le présent. Et puis il continue ses visites, il arrive à Shfaram. Papa, il arrive à Shfaram, dans la vallée de Akko. Mais à quoi ça lui fait penser Shfaram ? Shfaram, pour lui, c'est la transition du passé, cette fois non plus au présent, mais à l'avenir. Shfaram, pour lui, eh bien, c'est l'un des derniers bastions du Sanhédrin. C'est l'une des 10 tachanot du Sanhédrin avant qu'il ne termine son chemin à Tibériade. Lui, lorsqu'il arrive à Shfaram, il dit « Quand je suis ici et que je vois les vestiges à Bet-Shearim, Shfaram, Bet-Shearim, juste à côté, lorsqu'il arrive à Bet-Shearim, là où est enterré Rabbi Yehuda HaNassi, il dit « Regardez, où est Rabbi Yehuda HaNassi et ses descendants et où est l'empereur Adrien qui a décidé de tout détruire mais qui aujourd'hui n'a plus de descendants ?» Où est la grande Empire romain et où est Amisraël ? Pour lui, ce n'est pas simplement se rappeler le passé, mais c'est garantir également notre avenir. De là-bas, il continue un petit peu son voyage dans le nord d'Israël et il arrive à Kfar Gidon. Kfar Gidon, pour lui, c'est la Ma'apecha. Il faut savoir qu'à ce moment-là, à Kfar Gidon, il y a... Pardon ?
La révolution.
Pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ?
J'ai juste traduit.
Tu as traduit quoi ?
Non, le mot Ma'apecha, c'est tout.
Mais quand est-ce que j'ai dit Ma'apecha ? Il y a longtemps, je dis.
Il y a 2 secondes.
C'est vrai ? Tom, je ne me rends même pas compte. Bah, t'as raison, révolution. En fait, pour lui, ce n'est pas seulement une révolution. C'est la réalisation d'un rêve qu'il voit sous ses yeux. Il voit les... Kfar Gidon, c'est une population de juifs religieux qui habitent là-bas à ce moment-là. Et il voit les enfants de Kfar Gidon, qui sont donc l'avenir du peuple juif. Il les voit avec leurs péotes, il les voit avec... Et il les voit comprendre les versets du Tanakh comme étant des choses qui sont une évidence de leur quotidien. Il dit, Ayeladim, ne sont pas étonnés lorsqu'ils voient les mots Vekotz, Vedardar, Tatsmiach Lach. Ou alors lorsqu'ils voient les mots Vayazeku, Veysalkeu, Veytaou, Sorek. Toutes les espèces végétales mentionnées dans le Tanakh leur sont connues. Ils sont les enfants de l'avenir. Et puis ces voyages l'amènent également au Kotel. Lorsqu'il arrive au Kotel, eh bien, c'est pas l'esplanade du Kotel qu'on connaît aujourd'hui. Lorsqu'il arrive au Kotel, c'est un tout petit Kotel. C'est les 3,5 mètres de couloir entre le mur et le quartier des Mugrabim. Il dit, il faut absolument, et il est le premier à le dire, je préfère le préciser, il faut absolument et s'entraîner, donner au Kotel une esplanade qui pourra permettre de réunir des centaines de milliers de juifs. Il est le premier à parler de créer l'esplanade du Kotel qu'on connaît aujourd'hui. Lorsque en 1967, on va conquérir la vieille ville, qu'on va arriver au Kotel et qu'on va détruire le quartier des Mugrabim pour faire l'esplanade qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, on ressortira les lettres du Admour Achalout, qui a été le premier à parler de cette esplanade qu'il fallait absolument créer. Du Kotel, il part à Hebron. Et là, lorsqu'il arrive à Hebron, c'est tsaaka, c'est berri, c'est une tristesse terrible lorsqu'il arrive à Hebron. Nous sommes dans les années 30. Hebron, bien que encore, sera bien que plus sous domination ottomane, sous domination juive, reste quand même administré par la WAKF, reste quand même administré par les vestiges de l'Empire ottoman. Autant vous dire que les interdits concernant les juifs sont toujours en vigueur. Ainsi, eh bien, lorsqu'il arrive à Hebron, il est terriblement triste. Il arrive et dit, j'arrive devant Meharat HaMakpela, mais l'entrée est interdite aux enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Eh oui, les Juifs n'ont pas le droit de monter plus haut que la 7e marche. Il y avait un grand escalier qui menait au grand bâtiment construit par Hérode. Et comme vous le savez, eh bien, les Arabes avaient interdit aux Juifs d'aller plus haut que la 7e marche. Il pousse un cri énorme lorsqu'il arrive à Hebron et qu'on lui empêche de monter à l'intérieur de Maharat HaMakpela. Il dit « Ze beshivron lev she'azavti et kivrei ha'avot » C'est avec un cœur brisé que j'ai quitté le tombeau des patriarches, mais lorsque je suis arrivé chez maman, il parle de Rachel, à Bethlehem, Aitali Ruach Acheret. J'ai retrouvé un souffle nouveau, un autre souffle. En d'autres termes, cher Rachel, là c'est devenu plus sympathique. Ne serait-ce que parce qu'il pouvait y aller, tout simplement. Rabotai, on parle du cow-boy qui s'est baladé partout pour expliquer quelles étaient l'importance de chacun des lieux. Vous avez remarqué que dans notre tioul, on a été dans le Shomron, on a été à Jérusalem, on a été dans la Galilée, on a été dans la Haute et la Basse Galilée en fait, on a été également en Judée, ben, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, et on a été dans le Golan, à Naharaïm. Donc on a été là où on pouvait, partout. Il est celui qui va redonner à la terre d'Israël son rôle d'enseignant du peuple juif. Ce n'est plus seulement le peuple juif qui enseigne sur la terre d'Israël, c'est la terre d'Israël qui devient un prof pour le peuple juif. Mais je vous ai dit qu'on allait trouver le Rav Shapira dans tous les carrefours de l'identité. On a parlé du Rav Zev, Zev Yavetz la semaine dernière, et on a parlé de cette idée de créer une école où on apprenait aussi bien le Chol que le Kodesh. Mais au niveau institutionnel, d'où ça vient ? Eh bien, au niveau institutionnel, ça vient d'un rabbin en Pologne qui va être un ami de la famille de notre Admour Achalout et qui va écrire une lettre personnelle au Rav Ishayahu Shapira, lui disant que ce que lui, il a fait à Varsovie, il se doit d'œuvrer pour le faire en Eretz Israël. Le Rav de Varsovie s'appelle le Rav Yitzhak Nissenbaum, lui aussi fait partie du Mizrahi, et il va créer en Pologne l'école Tarkemoni. Maintenant, Tarkemoni, c'est un ridouche énorme pour l'époque, puisque pour l'époque, c'est pas compliqué. Soit tu as le Heider, soit tu as l'école Goy. Créer une école où on va étudier la Torah, mais on va étudier également, eh bien, j'ai envie de te dire, les langues et tout ce que tu veux, ça c'est un ridouche atzoum. Nous dit le Rav Nissenbaum, Bli Chol, I Efshar Shakodesh Yachul Alav. Sans le Chol, le Kodesh n'a nulle part où s'exprimer. Donc on a besoin, c'est ce que va faire le Rav Ishayahu Shapira ici en Eretz Israël. En Eretz Israël, il prend le taureau par les cornes et va commencer à l'intérieur du Mizrahi. On a dit, il fait partie des dirigeants du Mizrahi. Eh bien, il va commencer à expliquer quelle doit être la chita de l'école de cet État d'Israël en devenir. Nous dit le Rav Shapira, Admo Achalout, l'enseignement religieux dans son ancienne version est ancienne et dépassée. Cette façon d'être Kulo Kodesh ne peut plus répondre à la demande de la Torah actuelle. Notre éducation moderne, face au monde de la modernité, nous oblige à être mêlés dans les deux univers. Attention, il dit, il ne s'agira pas d'enlever quoi que ce soit dans l'étude de la Torah et dans l'étude de notre tradition. Il ne s'agira pas non plus de rajouter des heures de cours. Il ne faudrait pas que les profs ils s'énervent et qu'ils disent qu'ils doivent rester plus longtemps à l'école. Mais il s'agit de trouver l'équilibre entre l'imoudé Kodesh et l'imoudé Achol. Les amis, c'est une bombe. C'est une bombe en Eretz Israël. Pourquoi c'est une bombe ? Parce que le Mizrahi n'est pas d'accord. Mizrahi, sioniste religieux. Le Mizrahi n'est pas d'accord. Il veut garder des études, des écoles de type Heider, de type Haredit. Ben Gurion, il s'en fiche. Lui, il a son école à lui. Il a ses écoles par religion. C'est une bombe en Israël de créer des écoles, un système éducatif, Mamlarti Dati. C'est un chidouche énorme. Admour Achalout, encore une fois. Les amis, mais l'Admour Achalout va prendre part également à un autre combat. La jeunesse. Oui ? Quelqu'un voulait dire ? C'est bon ? Ok. Il va prendre part à un autre combat. S'il a parlé de l'école en tant qu'institution et qu'il comprend qu'il y a un rôle extrêmement important à jouer dans cette nouvelle façon d'enseigner, il dit, oui, mais attention, un enfant ne peut pas être toujours ni à l'école, ni sous la tutelle de ses parents. Alors, juste entre parenthèses, vous savez qui est son voisin à Varsovie, avec qui ils vont avoir des relations pas officielles. Parce que bon, il ne faudrait pas pousser non plus le bouchon trop loin. La famille, quand elle est à Varsovie, c'est quand même des chassidim, des admourim. Et pourtant, le jeune Ishayahu, il a une correspondance avec quelqu'un qui habite à deux rues de lui. Ce quelqu'un qui habite à deux rues de lui s'appelle Henri Goldschmidt. Vous connaissez Henri Goldschmidt ? Bon, alors, vous le connaissez certainement, mais par son autre nom. Il a changé de nom pour vendre plus de livres. Parce qu'Henri Goldschmidt, en Pologne, ça passait moyen. Donc, il a changé son nom, il est devenu Janusz Korczak. Janusz Korczak, le grand pédagogue du ghetto de Varsovie, eh bien, était un voisin, si on peut dire, du Rav Ishayahu Shapira. Et il y a une correspondance entre les deux. Il n'y a pas de problème. Aucun problème, Sandra. Bekitsour, eh bien, on peut comprendre qu'il a été influencé par Janusz Korczak quant à sa pédagogie face aux enfants. Nous dit le Rav Shapira, et là, je pense qu'on va retrouver certaines personnes à Givat Shmuel qui vont se reconnaître là-dedans. Il dit « Ayeled, ou lo rotze leimatze tamid tachat ol ahorim ou amorim » Un enfant n'a pas envie de toujours se retrouver sous la tutelle de ses parents ou de ses professeurs. « Shoef hu le sha'ash el cherut » Il a envie d'être libre. « Sheba yye chofshi le nafsho » Il veut une heure dans la journée où il est libre dans son âme. « Veota yevale rak ben chaverim » Et cette heure-là, il la passera qu'avec ses copains. Vous voyez où on veut en venir ? Alors, si je vous disais que le Mizrahi, il est parti en guerre, mais en guerre, contre un organisme qui a été créé quelques années auparavant, qui se revendique comme étant les fils d'un grand rabbin. Tu connais les fils d'un grand rabbin ? Un rabbin il y a 2000 ans. Un rabbin qui était le leader politique et spirituel pendant la guerre de Bar Korva. Il s'appelait Rabbi Akiva. Ben, il y a une organisation qui s'appelle les fils d'Akiva. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, c'est bon, ça parle à quelqu'un ? Alors, je ne vais pas te dire que c'est le Admon Achalutz qui a créé le Bnei Akiva, parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais c'est oui, lui, qui va lui donner sa place en Eretz Israël. Parce que c'est lui qui va être le soutien numéro un du Bnei Akiva. Mais attention, qui est l'ennemi numéro un du Bnei Akiva ? Un Mizrahi. Attends, le Mizrahi, il trouve que les jeunes qui vont faire le Bnei Akiva, c'est des révoltés contre l'autorité des rabbins. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'ils veulent se gérer tout seuls ? Ben, c'est ch'touillotte. À partir de ce moment-là, eh bien, le fossé qui est mis en place entre le Mizrahi et le Rav Ishayahu Shapira, qui en était un des fondateurs, eh bien, devient de plus en plus grand. Il décide qu'à ce moment-là, il va falloir créer autre chose. Et on commence à réfléchir à créer ce qui va devenir plus tard Hapoel HaMizrahi. On n'y est pas encore, mais ça commence à ce moment-là à monter. En 1937, il passe un coup de gueule énorme. Ça fait 2 ans que son maître est décédé, 2 ans que le Rav Kook nous a quittés, et il voit comment est en train de tourner le grand rabbinat d'Israël, Arabanut Arashit l'Eretz Israël. On parle à ce moment-là de géants. On parle du Rav Uziel, on parle du Rav Herzog, on parle de géants parmi les géants. Et pourtant, il va dire quelque chose. Il écrit une tribune contre l'Arabanut Arashit l'Israël. Comment te dire Comment te dire? Tu sais quoi? Je vais le garder. Avant d'attaquer la Rabbanout Arachit, il s'attaque à d'autres institutions. D'abord, il va s'attaquer à Agoudat Israël. Agoudat Israël, c'est quoi? L'organisation créée par le Hafetz Chaim, organisation dans laquelle son père, son grand-père, tout le monde était chaver. C'était l'organisation des rabbins en Europe. C'était la direction du monde Haredi. Ça l'est toujours. Agoudat Israël, il a quelque chose, ça le dérange. Regardez ce qu'il écrit. Im orot a geoula, avec les lumières de la geoula. On peut voir, grâce à ces lumières, énormément de défauts et énormément de likouim, de manque qu'il y a dans la direction rabbinique. Il y a un gouffre, une organisation qui est la responsable du péroud vessina trinam au sein du peuple juif. Violent. Il dit, il y a un organisme qui est responsable de la division et de la haine gratuite dans le peuple juif. Cet organisme s'appelle Agoudat Israël. Je ne sais pas si vous imaginez la bombe. Il est le fils de chez eux, il est le petit-fils, il a grandi là-bas. Il les connaît par cœur, tous. Et il te dit, Menaale Agoudat Israël. מתנהלים במלחמת פירוד בעבודת היישוב ובבניין הגאולה. Ils font la guerre de la division dans la construction de l'Israël et dans la Géoula. Cette direction de Agoudat Israël est complètement détachée du peuple juif. D'ailleurs, le peuple juif, il ne les compte pas parmi eux. Il ne s'occupe que de ceux qui sont prêts à signer derrière leur drapeau. Mais ils ne comptent absolument pas parmi eux les représentants du peuple juif. Ils comptent secrètement à la destruction du jeune, de la jeune, il parle ici du Yishuv, de la jeune, c'est pas encore un état, mais du jeune peuple juif en devenir sur la terre d'Israël. Il rêve secrètement à sa destruction pour pouvoir se reconstruire sur ses ruines. Et le pire, écrit-il, c'est qu'ils font ça au nom de Dat, Moshe et Israël. Ouais, c'est ce qu'on appelle pas mâcher ses mots. Mais il vient de là-bas. Il connaît le problème. Alors vous allez me dire, ok, alors, il n'aime pas les religieux. Est-ce qu'il aime les pas religieux? Eh bien, il a aussi un rapport très particulier avec la Hanaga du monde qu'on appelait à l'époque Atsionut Achofshit, le sionisme libre. En d'autres termes, de leur point de vue, libre de la Torah et des mitzvot. Qu'est-ce qu'il écrit par rapport au sionisme laïque? Il dit... Avodat Hashpa, si tu veux influencer, ça ne peut pas être fait Bemilchama ve'eva. Tu ne peux pas faire la guerre. Ce n'est que Mitor Shalom ve'avana adadit qu'on arrivera à avancer les uns avec les autres. Il dit, mais attention, le problème qu'on a, c'est que jusqu'à présent, ce qu'on essayait de faire, c'était, comment dire, eh bien, de donner un petit peu notre avis, mais de ne pas vraiment prendre part à ce qui se passe dans la Hanaga. De plus, il y avait souvent tendance à couper entre le Mizrahi et le reste de l'organisation sioniste mondiale. Comme dire qu'il y avait deux machlakot, deux catégories différentes. Dit le Rav Ishaou Shapira, le cowboy, il dit c'est plus possible. Cette chita de Mishpat Shlomo, la Shita de Yigzoru, qu'on va maintenant couper en deux, comme on a coupé à l'époque de Mishpat Shlomo, il dit ça, c'est pas possible. Parce que ça, c'est possible de couper. Dans l'histoire de Mishpat Shlomo, vous vous rappelez, il y a deux femmes qui viennent chez Shlomo avec un bébé. Il y en a un qui dit c'est à moi, l'autre c'est à moi. Il dit la Shita de dire on coupe et on se sépare, ça ne peut marcher que lorsqu'il y a une vraie maman et l'autre c'est une fausse maman. Mais lorsqu'il y a deux vraies mamans, tu ne peux pas couper. Il dit ce que représente le sionisme laïque et ce que nous représentons également, eh bien c'est vrai, mais c'est vrai. Donc on ne peut pas se séparer. Il est temps maintenant de dire aussi qu'est-ce qu'on a à dire. Parce que c'est bien beau de voir le bon côté chez chacun, mais il faut aussi se rappeler du message qu'on a aussi envie de donner. Et donc, eh bien, notre Admour Achalout va toujours se rappeler d'une chose. Il dit, quel est le rôle du sionisme religieux ? Et c'est là qu'il va créer le mouvement de Hapoel HaMizrahi. Il dit jusqu'à présent, eh bien, le mouvement HaMizrahi se contentait d'être une espèce de mahlaka religieuse au sein de l'Organisation sioniste mondiale. En gros, et il donne cette parabole, il dit c'est quoi le Mizrahi ? Ben, c'est simple, c'est comme tu vois un train, et il y a le train qui va dans une direction, qui est dirigé par le chauffeur du train, et c'est lui qui a le commande du train, et puis il y a un mec dans le train qui est responsable de la cache-route du restaurant du train. Il dit, ben, c'est ça le Mizrahi. Ils sont responsables de la cache-route du train. Nous dit le Rav Ishaïa Shapira, il est temps de prendre les commandes du train. D'arrêter d'être ceux qui viennent mettre des mezouzotes dans les maisons faites par nos amis Gelou Yerosh. Il est temps d'arrêter de venir simplement mettre des mezouzotes dans les maisons faites par ceux qui n'ont pas de kippot sur la tête. Il est temps de nous-mêmes construire les maisons. Et c'est à cela que va servir le mouvement Hapoel HaMizrahi. C'est-à-dire, il n'est plus du temps où nous devons influencer dans l'ombre, mais nous devons maintenant agir. Voilà l'idéal prôné. Et c'est là qu'il écrit donc la base de son livre, Ve'alenu Amelacha Ligmor. C'est à nous de terminer le travail qui a commencé déjà depuis des générations. Rabotai, comme je l'ai dit, après la mort du Rav Kook, il a un grand problème avec la suite du grand rabbinat d'Israël. Et comme j'ai dit, on parle de géants de la Torah. Mais il dit, on a un problème. Toute ressemblance, évidemment, avec un cas actuel serait purement fortuit, involontaire, bien sûr. Mais il dit, le Admor Achalout, le problème du grand rabbinat d'Israël, c'est, il parle de ça, je te dis, en 1937. Arabanut Kayom Beret Israël, elle ne remplit pas son rôle, nous dit-il. Elle s'est sortie de la vie quotidienne. Elle n'est pas la direction qu'elle doit donner pour la vie du peuple juif. Il est évident que le grand rabbinat est coupable de s'être détaché de la direction du quotidien du peuple d'Israël. Il ne nous donne pas la direction d'une vie de Torah. Ils sont pleins de Torah, nous dit-il, mais ne nous donnent pas la direction d'une vie faite de Torah. Dans chacune des paragraphes, il fait des allusions au Rav Kook. En disant, lui, il faisait. Pourquoi vous n'êtes pas le Rav Kook ? Bon, c'est caché. C'est caché, Behod, de rentrer dans les Nahalaim, dans les chaussures du Rav Kook, Pour lui, il le vit très, très, très difficilement. Alors, au final, eh bien, j'ai dit, l'Admon Achalout, à un moment donné, quitte la vie politique et il va s'installer pour réaliser ce qu'il a prôné pendant toute sa vie. Et il va devenir mamash un cow-boy. Et il va s'installer à Kfar Pines avec un cheval, un chapeau, j'imagine, un brin d'herbe comme ça. Il devait certainement avoir, et c'est pas certainement, il avait deux flingues sur les côtés, un cow-boy. Il a Kfar Pines et il est bien. Alors, je parle des flingues sur les côtés, j'exagère un peu parce que il a deux périodes dans sa vie. Dans sa vie, au début de sa vie, c'est un pacifiste. Mais mamache un pacifiste, genre mamache quoi. En 1926, il s'oppose, donc 1926, c'est quand il est jeune, quand il arrive en Israël seulement, il s'oppose à la création des Gdoudim Haïvrim, des sections juives de combat dans l'armée britannique. Il dit non, faut pas faire la guerre, c'est pas, faut faire la paix. Il va même faire partie, tenez-vous bien, d'un organisme qui s'appelle Brit Shalom. Brit Shalom, c'est l'ancêtre de Shalom Arshav. Mais quand il va comprendre que Brit Shalom, comment te dire, voilà, c'est un peu plus pro-arabe que pro-moite-moite. Et quand il va se rendre compte que Brit Shalom, c'est aussi à connotation quand même très anti-Torah, bon bah il sort de Brit Shalom. Mais il pense quand même qu'il ne faut pas faire la guerre contre les Arabes. Qu'il faut leur expliquer qu'il faut surtout faire venir un maximum de Juifs et que quand on sera la majorité, les Arabes seront très contents de vivre avec nous. Finalement, c'est le deuxième pogrom de Hebron, les révolutions arabes de 36-39 qui vont lui faire complètement changer d'avis et qui vont lui faire, comme j'ai dit, rentrer dans la Haganah. Il rentre dans la Haganah, il prend les armes et comprend qu'il y a un idéal, mais il y a la réalité. Et finalement, eh bien dans cette réalité, comme je l'ai dit, il part s'installer à Kfar Pines et il va réaliser tout ce pourquoi il a prêché toute sa vie. Là-bas, il va dire que l'idéal du peuple juif en train de revenir sur sa terre et de reconstruire son pays, c'est la sot ayashar ve'atov. Il faut être des gens bien. Il faut être pashut des gens bien. Moussarim, Tzedek Revrati. Pour lui, c'est très important. Et c'est ça qu'il développe lorsqu'il est dans son village. C'est à ce moment-là qu'il devient Admour. Parce que on veut s'attacher à lui de partout. De partout, on va s'attacher à lui. Alors, Rabotai, quel est son, finalement, son héritage? Son héritage, c'est de dire, dans le livre qu'il écrit « Alenu Amelacha Ligmor », il écrit un paragraphe dans lequel il dit « Oulai lo Alenu Amelacha Ligmor ». C'est-à-dire peut-être que ce n'est pas à nous de terminer le travail. Peut-être que nous, il se rend compte en fait à la fin de sa vie, qu'il ne verra certainement pas la réalisation de l'État d'Israël. Il dit « Nous avons créé les bases. Nous avions mis en place les Yesodot ». Mais il est évident que si lo alenu amelacha ligmor, al am Israël va la kadosh baruch hu ligmor ota. Finalement, eh bien, le rêve du Rav Ishayahu Shapira, du Admour Achalutz, de celui qui a été le plus grand fondateur du Mizrahi, du Hapoel Mizrahi, de celui qui a révolutionné l'enseignement en Israël au niveau institutionnel, de celui qui va promouvoir la Hitchashvut, de celui qui va promouvoir le fait que chaque partie de la terre d'Israël a quelque chose à nous enseigner, celui qui va promouvoir également le rôle du rabbinat comme étant celui qui va nous montrer le chemin de la Torah dans la vie, bien finalement, l'Admor HaChalutz nous dit que nous ne pouvons en aucun cas abandonner la promesse que Dieu a faite à Abraham. Nous devons remplir la terre d'Israël de juifs, recréer notre société pour amener une bracha dans le monde entier. Le Rabbi Cowboy à Admor HaChalutz, le frère de celui qui a été massacré dans le ghetto de Varsovie, celui qui deviendra, pour toutes les générations, celui qui a fait rentrer la chassidoute à l'intérieur de l'Aïtiashvout. L'élève, un des élèves du Admor HaChalutz n'est autre que celui qu'on surnommait Yoshkele, le père du Gush Etzion. Car c'est le Admor HaChalutz qui a lancé l'idée et l'idéal de créer le Gush Etzion, Gush Emunim, qui va finalement devenir l'une des pierres angulaires de la réalisation de cet idéal, de ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière un petit peu galvaudée, alors que c'est un véritable idéal de judaïsme, cet idéal qui s'appelle Torah ve'avoda. Tout ça, c'était le rabbin cowboy, Arav Yishayahu Shapira, Admor HaChalutz, le rabbi pionnier, Erev Tov, les Koulam.
Merci beaucoup. Pour moi, tu es déjà le Admor.